BFM Politique. Benjamin Duhamel.
Alain Finkielkraut, invité de BFM Politique. Alain Finkielkraut, avant de commencer cet entretien, je signale à tous ceux qui nous regardent à la maison qu'ils peuvent vous interpeller directement, et oui, en flashant le QR code qui va apparaître à droite de l'écran, et nous relayerons tout au long de l'émission les questions des téléspectateurs.
Interpellez gentiment, s'il vous plaît.
Et toujours gentiment, mais directement. Alain Finkielkraut, l'actualité ces derniers jours est marquée par des offensives qui ont un point commun. Elles visent l'école, menaces terroristes, espace numérique de travail attaqué, un proviseur qui se met en retrait après n'avoir fait que son travail, faire respecter la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. On y reviendra bien sûr dans le détail dans un instant. Première question, l'éducation nationale est en danger?
Elle est en danger, et pour mesurer le danger, il faut peut-être prendre un peu de champ. Septembre 1989, la rentrée scolaire, le collège Gabriel Avez à Creil. Le principal, Ernest Chenière, décide d'exclure deux élèves qui refusaient d'enlever leur voile au moment d'entrer en classe.
C'est l'affaire du foulard de Creil.
Voilà. L'affaire commence à faire du bruit. Le ministre de l'Éducation nationale dit « il faut convaincre les parents et les enfants » de retirer le voile, mais s'il refuse, il faut accepter parce qu'on doit accueillir les enfants. Et à ce moment-là, avec Elisabeth Van Inter, Elisabeth de Fontenay, Catherine Kinsler et Régis Debray, nous publions un manifeste.
Bah regardez, on a l'image, la une de l'Obs.
Oui.
Qui va apparaître dans un instant.
On n'avait rien prévu en plus.
Prof, ne capitulons pas. Non, parce qu'on comptait vous interroger là-dessus. L'affaire du foulard, prof, ne capitulons pas. Oui. Effectivement, cet appel que vous signez avec notamment Elisabeth Badinter et Régis Debray.
Négocier en disant qu'on va céder, ça a un nom, capituler. Nous appelons les professeurs à faire preuve de fermeté. Nous sommes très attaqués par l'ensemble des clergés, mais aussi déjà par les diverses associations antiracistes, le MRAP, SOS Racisme, la Ligue des Droits de l'Homme. L'accusation de racisme commence à monter. Et surtout, et c'est pour ça que j'y reviens, on nous dit « mais pourquoi montez-vous sur vos grands chevaux ? C'est une petite affaire, c'est pas la peine de faire toutes ces références, etc. » Nous sommes en 2024.
Considérez que la situation est aussi grave, mais problématique qu'elle
grave.
Ne l'était
en 2004, vous l'avez rappelé, il y a eu une loi, après beaucoup d'hésitations et de tergiversations, une loi interdisant les signes religieux ostensibles à l'école. Pas seulement le voile, il faut le rappeler. Donc cette loi est appliquée, mais là donc un proviseur dit à une jeune fille du lycée professionnel d'enlever son voile, elle refuse assez violemment. Que se passe-t-il ? Tous les élèves se mettent en grève, avec des arguments un peu différents. Religieux pour certains, individualiste pour d'autres. La liberté maintenant, c'est je fais ce que je veux quand je veux. Et surtout, le proviseur est attaqué sur les réseaux sociaux et il renonce, il annonce qu'il quitte ses fonctions. Donc les choses se sont considérablement aggravées. Il y a une loi, mais il y a aussi, comme l'a écrit Elisabeth Badinter, une seconde société qui tente de s'imposer au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession.
Question
voilà où
Natalia.
Nous en sommes.
Ça, c'est aggravé, c'est certain. Ce qui s'est peut-être amélioré, mais vous allez nous dire ce que vous en pensez, c'est la réaction de l'État face à cela. Parce que quand ce proviseur a dit qu'il démissionnait, Gabriel Attal est monté au front, l'État a porté plainte contre la dénonciation calomnieuse de l'élève qu'il accusait de l'avoir violenté, ce qui a été ensuite démenti. Est-ce que vous dites, au moins, nous sommes à la hauteur aujourd'hui du côté de l'État ?
Oui, c'est-à-dire que Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, avait dit déjà que c'en était fini du pas de vague. C'est-à-dire
mettre la poussière sous le tapis, décontestation de la laïcité.
De tous les incidents qui se produisaient. Parce que, il faut prendre ça dans un contexte plus large. Il y a le voile, il y a aussi, on l'a vu, l'abaya et le camis qui ont été interdits aux grandes dames de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, autrefois laïque, est aujourd'hui le défenseur flamboyant de l'islamisme, et il y a la contestation des cours de plus en plus effective. Oui. On se dit, Madame Bovary est contraire à ma religion.
Oui, mais Alain Finkielkraut, pardon d'interrompre votre raisonnement, mais la question que vous posez, Amandine, au fond, quand on vous écoute souvent, il y a évidemment la gravité de ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel, mais également sur les contestations de la laïcité, vous dites la situation est pire encore qu'en 1989, oui. C'est très grave. Là, il y a bien sûr la gravité de ce qui s'est passé avec un proviseur qui décide de partir en retraite de façon anticipée. Pour le reste, la quasi-totalité de la classe politique a dénoncé ce qui s'était passé, les professeurs, le gouvernement, oui. Mis à part effectivement quelques élus de la France insoumise, il n'y a pas de déni, il n'y a pas de... Le recul de la République, c'est éventuellement ce proviseur qui décide de partir à la retraite. Pour le reste...
Oui, il ne recule pas. Alors, j'ai vu un dessin sur Internet absolument extraordinaire. J'arrive pas à lire le nom du dessinateur. Ces deux professeurs qui parlent. Au troisième trimestre, j'ai prévu de parler de la Shoah, de la laïcité et de la théorie de l'évolution à mes élèves. L'autre lui répond, « Ok, tu veux faire valoir tes droits à la retraite. » C'est magnifique. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on sort du déni, contraint et forcé, mais cette seconde société dont parle Elisabeth Badinter est présente. Elle est de plus en plus présente et les professeurs ont peur depuis Samuel Paty et Emmanuel Bernard. On fait cours aujourd'hui dans ce qu'on appelle depuis Georges Bensoussan les territoires perdus de la oui. République, on fait court la peur au ventre. Voilà la réalité.
Question de Pauline Thévenot du Parisien.
Petite précision, ce dessin, c'était un dessin de Rançon, paru dans le Parisien.
Dans les colonnes du Parisien.
C'est pas vrai.
Si, absolument.
Ah bah dis donc, ça tombe bien.
Ça tombe très très bien. On s'était même pas concerté.
Mais on s'est vraiment pas concerté, hein, je ne savais pas.
Pour revenir sur Gabriel Attal, on aimerait savoir quel regard vous portez sur la façon dont il aborde tous ces sujets. Si mes informations sont bonnes, vous l'aviez rencontré, Gabriel Attal. Est-ce que vous aviez discuté de tout cela avec lui ?
C'est-à-dire que je l'ai rencontré au moment de son entrée au ministère de l'Éducation. J'avais pris la liberté... de chercher son numéro de téléphone et de lui envoyer un texto parce que je m'étais réjoui de cette nomination après Papendiaï. Donc, la politique d'essuie-glace d'Emmanuel Macron a quelque chose d'un peu fatigant. Blanquer pour la République, Papendiaï pour le multiculturalisme et ensuite Gabriel Attal. Je plaçais un certain nombre d'espoirs en lui. Ils n'ont pas été déçus.
En quoi ?
Il a interdit la baïa de manière très claire et donc il a été traité, traîné dans la boue, j'y reviens, par la France insoumise. C'était vraiment une mesure qualifiée de raciste. Et aussi, il a eu le courage de réaffirmer l'autorité, si vous voulez, l'un des héritages les plus désastreux de 68, qui n'a pas eu que des mauvais côtés. Hein.
Et donc, est-ce qu'Alain Finkielkraut fait partie du fan club de Gabriel Attal ?
Vous dites les choses de manière un peu triviale.
Oui, mais...
C'est normal, on est à la télé. J'espère en lui, j'ai plutôt confiance en lui. Si vous voulez, le président de la République a quelque chose de fatigant, l'impression d'un flipper qui va d'un sens à un autre, il me semble témoigner d'un peu plus de cohérence. Et donc, de ce point de vue-là, je suis content de ces premières
donc
décisions.
Vous le soutenez.
Et mais simplement, voilà, je ne sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire.
Non, mais ça...
Vous avez une question moins triviale. Si on parle de la laïcité, peut-être, parce que ce que dit cette affaire aussi, c'est que c'est un principe qui, aujourd'hui, est de moins en moins compris par les jeunes.
Bien sûr.
Et il y a d'ailleurs c'est un sondage Kantar qui date de novembre et qui dit que 60% des jeunes de 18 à 30 ans sont d'accord avec l'affirmation suivante. La défense de la laïcité est instrumentalisée par des personnalités politiques et des journalistes qui veulent en fait dénigrer les musulmans. Donc 60% des jeunes d'accord avec ça. Est-ce que ça veut dire pour vous que le combat est perdu sur la laïcité ?
Non, le combat n'est pas perdu. J'espère que la jeunesse n'est pas perdue. Quelquefois, je m'interroge, on ne l'aide pas tellement à s'élever. Et là, j'en reviens à ce que je voulais dire, défense de l'autorité. L'un des héritages de 68, c'était la confusion de l'autorité et du pouvoir, l'autorité et la domination. Vous voyez, il y a deux mots en latin, magister et dominus, pour le maître. Et on a rabattu le magister sur le dominus. Ça, c'était complètement stupide. Retrouver le sens de l'autorité en tant qu'elle est précisément un éveil pour les enfants, pour les élèves, Gabriel Attal l'a affirmé, et je pense qu'il a eu tout à fait raison. J'espère que les nouveaux enseignants sont d'accord avec lui. Je n'en suis pas tout à fait sûr, parce que l'actuelle ministre de l'Éducation nationale,
Nicole Belloubet,
il y a peu, Nicole Belloubet, qu'il fallait en finir avec le cadre rigide du cours magistral. Vous voyez, magistral.
Ça, c'est des propos qu'elle tenait il y a quelques années.
Oui. Oui, bien sûr.
Elle est revenue dessus en expliquant qu'au fond, elle était parfaitement en phase avec la ligne du gouvernement. Vous ne la croyez pas ?
Oui, mais le cours magistral, effectivement, on veut de plus en plus l'éliminer. On va agglutiner les élèves devant des ordinateurs. C'est formidable. Mais cours magistral, vous voyez, le magistère, cours magistral, il faut bien savoir, j'ai enseigné quand même, c'est un pléonasme. Un cours ne peut être que magistral. Le professeur a sa parole, les élèves l'écoutent, ils prennent des notes, et c'est comme ça qu'on transmet. Et donc, et alors, simplement...
Parce que l'État fait ce qu'il peut pour l'autorité, mais pour la laïcité alors.
Alors, la laïcité, mais il n'y a pas que la laïcité aujourd'hui qui soit en péril. Beaucoup de jeunes donc disent, encore une fois, je l'ai dit, une définition très faible... très effondré de la liberté. Voilà. L'individu, il est tranquille,
une laïcité
il s'habille comme il veut.
Alain Finkielkraut, une laïcité qui est au fond assimilée à une forme de discrimination, une tentation pour le modèle multiculturel américain.
Discrimination. Ouais. On cherche des discriminations partout. D'ailleurs, on en a trouvé une nouvelle, les gens vont être très contents, la discrimination capillaire. Donc voilà, on dit une discrimination après l'autre. Donc, on va dire que la laïcité, elle n'est pas discriminatoire. Elle a quel sens en réalité ? Ensuite, je reviendrai. C'est très important de le voir. La laïcité, dans son sens le plus haut, affirme l'indépendance de l'ordre spirituel. C'est-à-dire, c'est la résistance à la pression sociale. L'école, ce n'est pas la société, et c'est aussi la résistance aux dogmes religieux, l'indépendance de l'ordre spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, effectivement, la religion à l'école passe après. Et c'est ça, c'est pour défendre la culture.
Et c'est
ça qu'il faut faire comprendre.
Un dernier mot sur ce sujet. Si vous étiez, vous, à la place de Nicole Belloubet, je ne sais pas si ça fait partie de...
J'attendais qu'on me le propose.
Bon, et on vous l'a pas proposé.
C'est vrai, j'ai passé des heures devant mon téléphone.
Malgré vos relations avec Gabriel Attal, visiblement. S'il y avait une mesure, une idée, un discours choc pour faire en sorte que ce principe de laïcité soit davantage respecté, qu'est-ce qui pourrait être dit ?
Ce que j'ai essayé de dire maintenant. Voilà ce qu'est la laïcité, voilà à quoi elle sert. C'est un espace de respiration qui permet effectivement aux élèves, non pas, comme on dit toujours, de développer leur esprit critique, mais d'accéder à la culture. Voilà ce que je dirais de la laïcité. Et je rendrai tout son lustre au mot aujourd'hui complètement démonétisé de culture. Les grands textes de notre tradition. Mais, j'ajoute une chose, la laïcité aujourd'hui n'est pas seule en cause. On voit ce qui se passe au lycée Maurice Ravel. J'ai appris également que la sécurité était renforcée dans toutes les églises, devant toutes les églises, pendant le week-end pascal. Donc, par-delà la laïcité, c'est la civilisation française qui est en cause, qui est remise en question, dans toutes ses composantes, si vous voulez, la composante culturelle, mais aussi le soubassement religieux. Voilà à quoi nous sommes exposés par une forme de séparatisme qui peut aussi se présenter, même on le voit à travers ces espèces de mauvaises blagues dans les lycées, comme une forme de subversion, voire de conquête. Il faut avoir le courage de regarder la réalité en face et encore une fois, ne céder sur rien.
Alain Finkielkraut, je voudrais qu'on aborde la situation à Gaza où la situation humanitaire continue de se dégrader. Le gouvernement israélien qui reste déterminé à mener une offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza malgré les prises de position de la communauté internationale, même des États-Unis. Est-ce que vous dites comme Anne Sinclair il y a quelques semaines dans une tribune au Point, il est temps que cela s'arrête?
Écoutez, je ne dirais pas les choses ainsi. Alors, on revient à Gaza. Je vais parler de Gaza maintenant et ensuite peut-être des retombées
absolument
de cette guerre.
Situation au Proche-Orient, ensuite les conséquences
dans notre société.
Ici en France.
Je ne plaide absolument pas pour un soutien inconditionnel à Benjamin Netanyahou. Je crois que cette guerre était nécessaire. On ne pouvait pas laisser sans réponse le pogrom du 7 octobre. Un pogrom, il faut mesurer ce que c'est. Israël a été créé précisément pour être un lieu où aucun pogrom n'était possible. Là, il a été d'une ampleur, d'une férocité inouïe. On a assisté à la daéchisation du Hamas. Donc, c'était avec une visée explicitement génocidaire. Voilà le sort qu'on vous réserve, à vous les Juifs. On viole les femmes, on les éventre, on décapite les enfants, etc. Donc, réponse. La réponse, elle me semble légitime.
Mais est-elle proportionnée?
Je pense, et ça je vais choquer, je pense qu'en réalité elle l'est quand on compare à d'autres réponses, notamment celle de la coalition internationale à Mossoul.
Mais ça c'est l'argument de Bernard-Henri Lévy, mais pardon,
elle a fait quelque chose.
Il n'est pas
propriétaire.
Non, absolument. Mais simplement, quand on regarde les faits, quand on regarde les bilans en termes de victimes, quand on voit ce qui se passe du point de vue humanitaire, je ne suis pas certain que la comparaison entre Gaza, Mossoul et Raqqa soit tout à fait la bonne.
Parce qu'il y avait de l'aide humanitaire, il y avait des convois, il y avait des déplacements de population à Mossoul et à Raqqa peut-être. Ah non.
Donc vous considérez que la riposte de l'armée israélienne est proportionnée?
Les Israéliens font beaucoup plus. Donc la critique de Netanyahou ne doit pas porter exactement là-dessus. Ce qui m'inquiète, moi, c'est d'entendre Netanyahou parler de victoire absolue. De victoire absolue. C'est-à-dire, là, je trouve, et c'est Hannah Arendt qui le disait, que l'absolu scelle la perdition de tout un chacun quand on veut l'introduire en politique. La politique, c'est le domaine de la pluralité humaine. Aucun absolu n'est possible. Donc là, première critique. Et cette critique, il faut savoir qu'elle est formulée en Israël jusque dans le cabinet de guerre. Des tensions très sévères règnent entre Netanyahou, Eisenkot et Benny Gantz.
Et son ministre de la Défense, Yoav Galant aussi. Et on a vu des manifestations d'ailleurs à Jérusalem très importantes qui protestent contre Benjamin Netanyahou.
Plus grave encore, la politique de colonisation qui continue en Cisjordanie. Moi, je veux bien qu'on parle de Judée-Samarie, parce qu'il faut bien comprendre
Mais juste Alain Finkielkraut, en quoi vous êtes en désaccord avec ce que disait Anne Sinclair sur « il est temps que ça s'arrête ». Ça a beau être, comme vous dites, à vos yeux, proportionné et légitime.
Je ne dirais pas.
Il faudrait bien que ça prenne fin un jour. Et est-ce que vous contestez, par exemple, l'idée d'un cessez-le-feu que la France pousse?
Je pense d'ailleurs que même... ce que je pense, c'est que par exemple, l'armée israélienne dit que l'aide humanitaire qui arrive, mais l'aide humanitaire doit être prise en charge par l'autorité palestinienne. Et Benjamin Netanyahou refuse. Benjamin Netanyahou ne veut plus du Hamas, qu'on peut comprendre, mais il veut plus du Fatah. Il ne veut plus rien. Alors quoi? Quel sera l'après? Je conteste aussi, alors là, très vivement, avec une véhémence éperdue, la politique en Cisjordanie. Bélazel Smotrich...
Mais sur le cessez-le-feu...
Mais le cessez-le-feu, il faut savoir que des négociations... Alors, il faut savoir, le cessez-le-feu, ça se négocie. Voilà d'ailleurs pourquoi la victoire ne peut pas être absolue, parce qu'il ne peut se négocier qu'avec le Hamas. Mais la dernière proposition, c'est le Hamas qui l'a refusé. Ce que je mens, c'est qu'on fasse aussi pression sur le Hamas pour le cessez-le-feu et pour les otages. Mais bien sûr, mais la colonisation, 800 hectares doivent être, selon Bezalel Smotrich, annexés à Israël, en Cisjordanie. Je trouve cette politique absurde, criminelle et suicidaire. Donc ça, je n'ai absolument pas envie de le dissimuler au nom d'un soutien inconditionnel à Israël. Je suis inquiet pour Israël, je trouve révoltantes les accusations de génocide, il n'en reste pas moins que je garde les yeux
Pourquoi
ouverts.
Pourquoi révoltante? Comment? Parce que l'ONU pointe un risque génocidaire. Pourquoi est-ce que c'est révoltant, selon vous?
C'est grotesque. C'est grotesque. À Tokyo, quand les Américains ont bombardé Tokyo, ils ont fait 100 000 morts en une nuit. Les Alliés, quand ils ont bombardé les côtes normandes, ils ont fait 60 000 morts. Tout ça, on dit génocide pour dire que les Juifs sont des nazis. Et l'ONU a perdu la tête.
Alain Finkielkraut, je suis absolument navré de vous couper parce qu'une information vient de nous... Ça y est. D'arriver sur le petit Émile qui avait disparu. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés. Voilà cette information qui vient de tomber. Communiqué de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence. Les enquêteurs prenaient possession des ossements immédiatement transportés à l'IRCGN afin de faire procéder à des analyses d'identification génétique qui permettaient de conclure ce 31 mars qu'il s'agissait des ossements de l'enfant Émile Soleil. Voilà donc, sans doute, sinon le dénouement, du moins une information essentielle, le petit Émile qui était évidemment toujours disparu. Voilà cette information. On va faire une très courte pause et on en reparle évidemment sur BFM TV. Restez avec nous.